France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et pour cette émission de rentrée, je reçois Michèle Bernard, une artiste qui nous enchante depuis plus de 40 ans, munie de son accordéon. Elle a revisité la chanson populaire, mise en musique les poètes et créé ses propres spectacles comme les Nuits Noires de Monde. Elle sort un nouvel album avant de partir en tournée. Michèle Bernard à ce micro dans quelques toutes petites minutes. En fin d'émission, la voix de Vincent Scotto et la reprise du Chalet d'Adolphe Adam à Toulon. Bienvenue dans Étonnez-moi Benoît, ouvrez vos cahiers et préparez vos crayons.
Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Attention, tout d'abord, nous allons lire l'alphabet. Tâchez de faire un effort et surtout de ne pas vous tromper.
A-N-T-O-U.
C'est ça.
U-E-A-I-O.
C'est faux.
A-N-T-O-U.
Ça va.
E-I-I-A-O.
Zéro. Attention, maintenant, tous ensemble on va compter. Allez-y, calmement, et montrez que vous êtes futé.
4 et 4 égale 8.
C'est ça.
5 et 4, 6.
C'est faux.
6 et 4, 10.
Ça va.
7 et 4, 22.
0. Allons.
L'éléphant, il est vert.
C'est faux.
Le serpent est gris.
Mais oui.
Le chameau, il est noir.
Zéro, là. Toujours le même. Oh, quand. Très bien.
4 et 4 en 8.
0.
6 et 4 en 2.
Parfait.
Je peux sortir, monsieur.
Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Non. Vous la baguette. Mais vous pouvez sortir maintenant, mon petit garçon.
Trop tard, monsieur, c'est fait.
Ah oui, ce n'est pas la rentrée de France Musique, c'est la rentrée des classes vue par le grand orchestre de Jacques Ellian, une chanson d'André Ornaise et de Guy Lafarge, enregistrée en 1953, au moment où, vous savez, tous ces rythmes latins et brésiliens faisaient fureur.
Thank you.
Voilà, ça c'est pour me rappeler l'air de la mer au bord de laquelle je me trouvais il y a encore quelques jours, la polka des matelots de Joseph Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Zubin Mehta.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais il est temps, sans plus attendre, de retrouver mon invitée, une invitée qui a été révélée, on peut le dire, par le Printemps de Bourges en 1978. Elle arpentait déjà depuis quelques années les rues de Lyon, munie de son accordéon, en reprenant les vieilles chansons populaires et en créant ses propres chansons. Depuis, elle a créé aussi beaucoup de spectacles, croisé les chemins de ses amis comme Anne Sylvestre ou Romain Didier. Elle sort un nouvel album et j'ai donc la grande joie de recevoir ce matin Michèle Bernard.
N'échoue plus dans nos rouges à lèvres. Je clique assez de plastique en boule dans le ventre des chèvres. Je clique pour que dans 100 ans y ait encore des oiseaux, des poissons qui frétillent. Je clique pour qu'au Pakistan on ne balance plus d'acide sur le visage des filles. Clic, clac, c'est un jeu, on peut jouer très nombreux. Clic, clac, c'est un droit, effleurer le malheur du doigt. Clic, clac, une pichenette, viens partager sur le net, tout seul au fond de ton abri, tes désirs de colibri. Je clique, sauvons la forêt, les dissidents qu'on assassine, les vieux qui voudraient s'en aller, les enfants sautant sur les mines. Je clique contre le malheur qui s'étale à toute heure en salve continue. Je clique l'écran de couleur où la noirceur des hommes éclate toute crue. Clic, clac, c'est un jeu, on peut jouer très nombreux. Clic, clac, c'est un droit, effleurer le malheur du doigt. Clic, clac, une pichenette, viens partager sur le net, tout seul au fond de ton abri, tes désirs de colibri.
Bonjour Michèle Bernard.
Bonjour.
Vous avez vraiment rejoint le flot des fidèles qui passent leur temps à cliquer devant leur ordinateur jour et nuit?
Je l'avoue, oui. Oui.
Chanson autobiographique.
Tout à fait, non, c'est tout à fait sincère.
Parce qu'on ne vous imagine pas tellement, vous, l'ancienne 68arde, la militante, l'artisan de la chanson, dans le monde numérique. Ça
ne
vous
vrai,
fait pas peur un
peu tombée,
aussi?
Mais ça me fait peur, bien sûr, oui. Mais je suis tombée dans la nasse comme tout le monde. C'est vrai que c'est un outil de diffusion de l'information formidable. Voilà, on découvre plein de choses. Et puis aussi, on est comme des imbéciles là-devant, quoi, voilà. À fuir le réel.
D'où cette chanson, cette voilà. Très jolie chanson. Je dois vous dire, j'adore cette chanson parce que il y a cette utilisation du tuba, ces voix harmonisées ouais. Et la contrebasse, tout ça est très composé. J'ai envie de dire, on a l'impression d'une composition plus que d'une simple chanson. Et souvent, d'ailleurs, chez vous, on a l'impression que vous composez des spectacles, des chansons.
Oui, bah disons que la musique, enfin, la partie arrangement de mon travail, elle est très importante, ouais. L'habillage musical, mais l'habillage n'est pas quelque chose de superficiel. Hein. C'est comment une chanson va être sublimée par l'arrangement de quelqu'un. Et
là, en l'occurrence, il s'appelle Pascal Bern.
Pascal hein. Bern, tout à fait. Donc, c'est lui qui a signé les arrangements de tout le CD. Et pour moi, c'est un musicien très imaginatif aussi. Très...
Ouais. Vous aimez le travail du studio, tout ce qu'on peut faire autour des micros, avec une console et des musiciens
Alors, au départ, je détestais ça vraiment. J'avais l'impression d'une chose totalement antinaturelle.
C'est l'engagement de la
besoin,
scène.
Voilà, ouais. J'avais besoin de... Ouais. De mettre mes tripes sur une scène et j'ai besoin de cette présence du public. Et puis, voilà, après, on apprend un peu à apprivoiser cet outil et puis à se sentir bien quand même. Et puis, par exemple, dans ce disque-là, dans le studio, a régné une atmosphère entre les musiciens, tout ça qui était tout à fait agréable et créatif. Quoi. Et du coup, j'ai pris goût quand même.
Vous y avez pris goût.
Oui.
J'ai prononcé tout à l'heure l'expression... Vous m'avez pas arrêté, mais peut-être ça vous fait horreur d'en vous dire. Chanteuse engagée, pour vous définir, Michèle Bernard, c'est quelque chose que vous acceptez ou qui vous paraît trop sommaire?
Bon, c'est-à-dire, je pense que c'est pas étonnant qu'on m'ait donné cette étiquette, dans la mesure où je suis issue de la génération post-68, comme vous le disiez. C'est-à-dire que moi, j'ai été portée par la vague des chanteurs engagés qui étaient Catherine Ribeiro, François Béranger, Colette Magny, ces gens-là, qui avaient vraiment un propos politique. Et il se trouve que les propos politiques ou sociaux à l'époque étaient vraiment ce qui motivait les foules. Hein, Et évidemment, je suis partie sur cette vague-là. Après,
vous avez fait mille autres choses. Hein.
Voilà, c'est-à-dire que je trouve que la chanson, c'est un engagement. C'est vrai, c'est un engagement. Moi, c'est l'engagement toute ma vie, de toute manière. Mais c'est une manière de parler du monde. Et parler du monde, c'est pas forcément donner des slogans politiques et dire aux gens ce qu'ils ont à penser. Pour moi, c'est même tout l'inverse. C'est juste dire des choses que l'on observe, que l'on ressent, comment elles résonnent en vous et comment éventuellement elles vont résonner chez l'autre. Ça n'a pas d'autre prétention.
En tout cas, on est heureux de votre retour avec cet album là qui sort dans quelques jours. Vous dites d'ailleurs dans certaines chansons de l'album, vous évoquez qu'il y a peut-être eu des passages difficiles parfois dans votre parcours, des moments de retrait. Et puis il y a des retours aussi, des doutes, il y a eu également sur le métier.
Oui, dans un parcours aussi long, parce que oui, je peux me targuer d'avoir quand même quelques années de scène et de studio. Forcément, il y a des zones d'ombre et puis des zones de lumière. Mais écoutez, à regarder comme ça en arrière, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être toujours là.
Et de continuer à écrire des chansons.
Oui, et d'avoir toujours cette motivation pour le faire aussi, quoi.
Alors, on va revenir sur cette histoire très riche et pleine aussi d'aspects inattendus. On va replonger dans le monde, d'abord, évidemment, de votre enfance.
The upper room, with Jesus. Well, in the upper room, oh, my Lord, well, my Lord, well.
You know, in the upper room.
Ça, c'était à New York en 1952, la grande, l'immense Mahalia Jackson. Alors, vous n'étiez pas à New York en 1952.
Non, pas vraiment, j'étais une petite Bernard, fille.
Toute petite fille dans la région lyonnaise.
Voilà, tout à fait.
Et ça, c'est une des artistes qui vous ont éveillé à l'amour de la musique.
Alors, disons que j'ai eu plusieurs influences musicales quand j'étais petite fille, liées à ma grande sœur et à mon petit frère. Et mon petit frère faisait partie d'un groupe de Negro Spirituals dans son lycée. Ça s'appelait les River Lats, je me rappelle. Et bon, c'est par lui que j'ai connu cette musique noire américaine, le gospel, le blues, la magie de ses voix, la pulsation aussi, voilà, la chair qu'il y a dans cette musique. Quoi. Voilà,
ça vous a profondément marqué.
Oui, ça m'a marqué, tout à fait.
Voilà. Alors, je disais, c'était dans la région lyonnaise. Oui. J'ai lu aussi que vous étiez une petite fille qui grimpait aux arbres et qui courait plus vite que les garçons. C'est vrai.
Je ne sais pas quelles sont vos lectures, mais franchement.
C'est vous qui le dites quelque chose dans une interview.
C'est vrai. D'accord. Alors, ça, on va dire que ça fait partie des choses que j'ai oubliées. Dans ma tête, je suis plutôt une petite fille sage.
Ah bon?
Oui, oui. Plutôt une petite fille sage. Mais, non, j'ai lancé des piques un peu d'ironie et tout ça. Je faisais de la résistance, mais plutôt. Pas très physique en fait, non.
Ah bon ?
J'étais une gentille petite fille et en fait, par contre, la révolte couvait en moi.
C'est ça. Donc pour vous, au fond, par rapport à votre milieu familial, à votre génération, à votre enfance, d'être devenue artiste, d'être devenue chanteuse, c'était lié à une révolte.
Oui, une forme de libération, oui, c'est vrai, je l'avoue. Mais mes frères et sœurs ont suivi peut-être une ligne plus traditionnelle et moi... J'ai eu envie de sortir de ce carcan familial. Bon, maintenant, quand je le regarde, il n'était pas si horrible que ça, mais c'est juste que moi, je sentais. Effectivement, il y avait mes 68 qui couvaient, et voilà, je sentais que la vraie vie était ailleurs, tout ça, quoi. Oui, j'ai eu très vite un esprit un peu rebelle, quoi. Et j'ai cherché.
Sauf que votre rébellion s'est pas traduite tout de suite par l'idée de faire des chansons, hein. C'était plutôt devenir artiste.
Être artiste, voilà. Être artiste. C'était un peu flou. Je faisais de la peinture, je faisais du théâtre, je faisais partie de clubs théâtre. J'ai même fait 2 années au conservatoire de théâtre à Lyon. Et voilà, j'étais attirée par toutes ces choses de l'art. Mais je peinais à y trouver ma place.
Est-ce que vous avez vraiment... Alors, parce que je vais vous faire écouter un petit document que j'ai retrouvé quelques années après vos débuts. Est-ce que vous avez vraiment... Parce que ça paraît assez loin de votre monde, aimer Les Branquignoles de Robert Derry et ce spectacle de pure fantaisie théâtrale.
Ah bah oui, je ne m'en souvenais pas, mais maintenant que vous m'en parlez... Oui, j'ai un souvenir ému des Branquignoles et de cette espèce de folie débridée qu'on a peine à trouver de nos jours.
Qu'on a peine à trouver aujourd'hui.
Oui.
Et on était loin de la chanson de gauche, là, avec les Robert Derry. C'était plutôt pure fantaisie.
La pure fantaisie, mais ça, je ne crache pas dessus. Hein, c'est pas de problème là-dessus.
Et vous ne vous rappelez pas où est-ce que vous en avez parlé?
Non, franchement.
C'était sur France Inter en 1982, dans une émission très célèbre. Tiens, on va écouter tout de suite. Ça s'appelait Le Tribunal des flagrants délires.
Ah, yes.
Mesdames, messieurs, la cour. L'avocat de la défense, Louis Rego. La procureure générale de la République, Pierre Desproges. Et le président, Claude Villers.
L'audience est ouverte, huissier appelé.
Nous appelons à la barre Michel Bernard.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Michel Bernard, 35 ans, chanteuse de variété.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Bien, Michel Bernard, vous avez entendu les chefs d'inculpation qui ont été portés contre M. Derry.
Oui, M. le Président.
Vous avez eu connaissance, bien sûr, des différentes prestations de M. Derry dans sa carrière. Vous en avez suivi peut-être
quelques-unes. J'en ai suivi quelques-unes. D'ailleurs, j'ai eu un grief de plus à apporter.
La Cour vous écoute, parlez sans haine et sans crainte.
Bien, c'est à cause de ce monsieur que j'ai renoncé à des études très brillantes. Parce que c'est en voyant Les Branquignoles que j'ai eu envie de faire du théâtre.
Mais vous n'avez pas fait une carrière de comique, disons.
Non.
Pourquoi?
Ben, je ne sais pas, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Mais j'essaye de ne pas être triste quand même dans mes chansons.
Vous avez une question à poser aux témoins?
Oui, une vague question, pas très intéressante. Je le vois comme dans L'Humanité du 7 août, c'est un journal.
Rires.
Tu sais ce qu'il dit, Roland Laurent?
Dans l'Humanité du 7 août 81, sous la signature de Daniel Panchenko.
C'est mon copain.
C'est un nom russe, non?
Oui.
Tu as raison, il y a des Russes à l'humain. C'est normal. Que, oui, il écrit que vous brandissez votre accordéon comme une ultime pudeur.
Oh,
vous avez rien de souple. Qu'est-ce que ça veut dire, vous brandissez votre accordéon comme une ultime
Alors,
pudeur?
Franchement, je me le demande. Déjà, brandir un accordéon, c'est déjà quelque chose.
Oui.
Comme et... ultime pudeur, c'est-à-dire que vous n'avez rien de souple.
Oui, c'est exact, je l'avoue.
C'est une licence poétique.
Voilà.
Voilà.
C'est ce que vous vouliez savoir.
Oui, non, j'aimais bien cette prose. En plus, je ne suis pas gentil parce que je trouve que c'est bien écrit son papier. Je dis ça pour rigoler, pour dire une connerie.
C'est en fait parce que
je suis payé pour ça.
Parce que c'était dans l'Humanité, quoi, c'est tout.
Non, au contraire, c'est bien de souligner qu'il y a aussi de la poésie dans l'Humanité. Il n'y a pas que les cours de la bourse.
Nous allons vous demander de témoigner en chanson, Michel Bernard, face au prétoire du tribunal des flagrants délires. Michel Bernard.
Elles se tenaient debout et les seins en avant pour déballer leur cœur sans micro, sans manière, à la braderie des larmes et des bons sentiments. Elles avaient la santé de chanteuses populaires. Elles s'appelaient Fréhel ou Berthe ou bien Damia, les championnes du mélo, les stars de la rengaine. On reprenait en chœur autour d'un petit format. Dans les noces et banquets, elles sont toujours les reines. Refaites-nous le coup du vieux bateau, des goélands, du légionnaire. Vos voix qui nous mènent en bateau, c'est pas du râle de poitrineur. On peut pas dire que ça vient troubler le ronron des boyaux de la tête. Mais ronronner pour ronronner, j'aime mieux les larmes que les paillettes. Connaissez pas le créneau de la femme libérée. Leur truc c'était l'amour et les beaux militaires. Ceux qui vous tiennent au chaud, les méchants, les frisés. L'extase entre deux trains, les trains entre deux guerres. Elles chantaient toute la gamme des vacheries du destin. L'horoscope de la poisse au creux de leurs mains offertes. La misère du pauvre monde si noir qu'on n'y peut rien que se mettre à croire en Dieu ou se foutre par la fenêtre. Refaites-nous le coup du vieux bateau, des goélands, du légionnaire. Vos voix qui nous mènent en bateau, c'est pas du râle de poitrineur. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, à part le tempo et la manière. On s'y entend toujours pour verser le bromur dans la soupe populaire. C'était pas clean, question moralité. Les Joplin à papa, les roqueuses d'avant-guerre. L'absinthe et la coco, ça les faisait pas trembler. Mais ça faisait déjà pas à faire swinguer les pierres. Elles ont donné leur trip, elles ont brûlé leur voix. Avec l'hymne à l'amour en dernier héritage. On prime un bras d'honneur ou un signe de la croix avant de partir chanter de l'autre côté des nuages. Refaites-nous le coup du vieux bateau, des goélands, du légionnaire. Vos voix qui nous mènent en bateau, c'est pas du râle de poitrineur. Je voulais vous faire un compliment, puisqu'on dit que vous êtes mes marraines. Même si cette idée me plaît pas vraiment, mesdames les chanteuses, je vous aime.
Le tribunal des flagrants délires du 5 novembre 1982 avec Claude Villers et aussi Pierre Desproges qu'on a entendu. Vous vous rappeliez
quelle
cette plongeur. Émission
Non, je me souviens de la trouille qu'on éprouve à arriver dans ce genre d'émission. où les types sont branchés vraiment pour dire des horreurs, de choses très drôles, enfin avec un esprit décalé, puis on arrive avec sa petite chanson. Je me souviens bien du trac. Oui, je me souviens bien du trac. Le reste me revient après. Oui,
voilà, et cette belle chanson, les chanteuses populaires, où vous parlez de ces grandes chanteuses que vous admirez, même si vous ne faites pas la même chose, mais vous leur avez quand même, je dirais, rendu hommage à votre façon, notamment dans les premières années de votre carrière. Je voudrais qu'on revienne un peu à vos débuts. Oui. Vous vous rappelez le Rabolio dans Le Vieux Lion ?
Ah oui, si je me rappelle. Hein, c'est les beaux débuts. Le Rabolio était un restaurant donc de la rue Lennery, Lyon.
Ouais.
Et c'est un restaurant qui accueillait des artistes, des chanteurs essentiellement, des gens qui disaient des poèmes ou des guitaristes classiques aussi. Et oui, on peut dire que c'est là que j'ai débuté absolument avec un copain chanteur, auteur-compositeur qui s'appelle Michel Grange.
Ouais.
C'est là que j'ai fait mes armes,
je
me rappelle, sur le petit tabouret à l'angle du bar et devant les gens qui mangeaient leurs entrecôtes marchands de vin. Et... oui, c'est une école. C'est une école.
Mais c'est pas si loin que ça, au fond, de ceux qui débutaient à l'Écluse, à la Colombe, à Paris.
C'était absolument, il fallait gagner le public, quoi. Voilà. Et je garde un très beau souvenir de ça. Je me rappelle que je partais avec mon accordéon accroché à ma mobilette pour aller faire la manche au Rabolio. Et c'est, oui. Je me rappelle aussi que le chien du Rabolio détestait l'accordéon et que c'était un peu difficile des fois.
Alors justement, deuxième question, et vraie singularité quand même dans cette époque de la jeune Michèle Bernard, c'est l'accordéon, parce que justement, dans l'esprit 68-art, il y avait plutôt un rejet assez violent de tout ce qui était qualifié à l'époque de franchouillard,
oui,
et en premier lieu l'accordéon.
Oui, c'est juste. C'est une chose très, très matérielle en fait. J'avais appris le piano classique dans le salon de mes parents. Et je leur en voulais de m'avoir fait faire du piano au départ. Enfin voilà, j'étais en pétard, quoi. Et puis, j'ai cherché donc l'instrument qui me permettait de quitter le salon de mes parents, mais d'utiliser un petit peu quand même techniquement...
Vos connaissances du clavier, bien sûr.
Voilà. Donc, un accordéon avec clavier-piano. Donc, ça a été ça, ma première motivation, plus qu'une motivation musicale. Et en fait, en utilisant cet instrument, en faisant sa connaissance, j'ai fait la connaissance aussi... avec tout un répertoire quoi, de chansons populaires qui m'a embarqué, en fait, qui a été aussi déterminant dans ma vie. Quoi.
Voilà, alors ces premières années, on peut parler peut-être aussi du théâtre de la Satire à Vénissieux, qui est aussi un endroit de vos débuts.
Oui, tout à fait. J'ai fait partie de la troupe du théâtre de la Satire de Vénissieux, qui était une troupe très, très engagée, très brechtienne, on va dire, pour faire vite. Quoi. On jouait Mayakovsky, Brecht, etc. On faisait des interventions dans les cours des usines. C'était à l'époque, c'était très vivant, cette chose-là. Et là, je pensais encore être comédienne à ce moment-là, mais déjà l'accordéon était là. Et surtout, j'ai participé à un spectacle qui s'appelait « Histoire de chanter ». Et qui racontait l'histoire de France à travers la chanson populaire.
Voilà, et là c'était encore la plongée dans toutes les chansons ouvrières notamment.
Notamment, mais on partait en fait du Moyen-Âge en fait, les chansons traditionnelles, les chansons de travail, les chansons de soldats, toutes ces choses-là. Et puis on remontait l'histoire comme ça jusqu'à, alors évidemment les grandes périodes, les chansons liées aux périodes de combat, parce que c'est là aussi que les chansons elles fleurissent beaucoup quoi.
Mais alors, donc les chanteuses réalistes, ça fait évidemment partie de tout ça, mais en même temps, vous les aimez, et comme vous chantiez à l'instant, voilà, vous ne vouliez pas à vos débuts quand même qu'on vous confonde trop avec quelqu'un qui serait une petite fille de Damia ou de Fréhel.
Oui, c'est-à-dire que ça ne me paraissait pas juste, surtout, je pense qu'il y a eu cette comparaison à cause de l'accordéon, et peut-être d'une certaine manière un peu... j'allais dire violente, parce que je trouve engagée de chanter, mais... ce qu'elle racontait. Les auteurs de ces chanteurs, parce qu'elles avaient souvent des auteurs hommes, et ce sont souvent des chansons quand même de la résignation, des chansons du grand malheur, de la grande misère, etc. Et c'est vrai que c'est pas exactement ça que...
Mais alors, est-ce que c'est pour ça, parce que moi c'est comme ça que je vous ai découvert, que vous avez eu l'idée excellente, parce qu'il n'y a pas d'autre enregistrement, d'enregistrer justement quelque chose qui est d'une parodie de chansons réalistes, qui est un détournement complet, qu'a fait l'excellent Georgius au début de sa carrière, et qui s'appelle le fils-père. Donc en général, c'est toujours l'histoire de fille-mère, lui, il a fait le fils-père.
Voilà,
et vous l'avez enregistré, c'est le seul enregistrement qui existe, c'est pour ça que ça m'a ravi le jour où je l'ai trouvé.
Je ne savais pas, moi, que c'était le seul, mais ça
c'était pour un spectacle.
Ça me ravit aussi. Non, je pense que c'est une chanson que j'ai découverte justement dans ce travail de recherche de la chanson populaire. J'ai dû tomber dessus, puis je me suis dit, oh, mais c'est trop beau ça. Et justement, là, voilà, belle distance, quoi, belle distance. Et puis en même temps, beau contenu aussi sur comment, quand on inverse les rôles, on écoute les choses différemment, quoi, et on regarde la réalité différemment.
Il était beau, il s'appelait Jules, il n'avait pas encore fauté. Quand un beau soir, au crépuscule, par le désir, il fut tenté. Juste à ce moment, une brunette qui descendait de l'autobus lui dit: viens-tu dans ma chambrette, j'habite au métro Picpus. Amour, amour, tu vas faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Il soupira si je faute ma mille. M'épouseras-tu? Oui, dit-elle, c'est fatal. Mais quand il se fut donné bêtement, elle lui dit: maintenant va-t'en. Elle le jeta hors de sa maison sans lui rendre son pantalon. C'est alors qu'il comprit sa honte et sa misère. Un malaise le pourrit, Jules était fils père. Afin de dissimuler sa faute, il prit d'affreuses précautions. Il se serra les entrecôtes et fit élargir ses caleçons. Mais un jour il perdit sa place, le patron l'ayant fait appeler, lui dit: t'as fauté, je te chasse, faut pas de fils père à l'atelier. Amour, amour, tu veux faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Pour oublier, il sombra dans l'orgie, il but du cidre et de l'urodonal. Alors à Montmartre là-haut, on le vit rouler dans le ruisseau, pendant que d'affreux noctambules venaient tirer l'oreille à Jules. Et de son pauvre corps, les filles abusèrent. On n'est pas respecté quand on est fils père. Un soir, dans une louche officine, il entra décidé à tout. Il vit une femme, une gourgandine, qu'on appelait Madame Guette au trou. Afin de faire disparaître la trace de la faute du pauvre gueux, elle lui charcuta la carcasse en se servant d'une pelle à feu. Amour, amour, tu fais faire des folies. Amour, amour, tu nous fais bien du mal. Le pauvre gars faillit perdre la vie. Hier, il est sorti de l'hôpital. Et maintenant, pas les flétries, le ventre et les seins pleins de plis. Sur Sébastien, on peut le voir, il est devenu fils du trottoir. Mariez-vous, jeunes gens, avant de vous laisser faire. Ne faites pas comme Jules, le malheureux fils père.
Le fils père, une chanson de Georgius enregistrée par mon invité Michel Bernard. Ça, c'est dans votre deuxième disque, ouais, paru en 1980 et produit d'ailleurs comme le premier par Daniel Colline. Alors, beaucoup d'auditeurs le savent, Daniel Colline, c'était le grand patron, le fondateur du Printemps de Bourges. Et c'est en fait le Printemps de Bourges, après ces petites scène lyonnaise qui vous a vraiment lancé en 1978, hein, Michel.
C'est vrai, c'est vrai. Ça a été là, une étape très importante. Je dois beaucoup au Printemps de Bourges 78, objectivement, même encore aujourd'hui. C'est vraiment fou. À l'époque, ça faisait partie des premiers Printemps de Bourges. Hein.
Oui, ça venait d'être créé.
Et la chanson était reine à ce moment-là au Printemps de Bourges, qui n'est plus exactement le cas maintenant. C'était un festival plus petit aussi à l'époque, ouais, et aussi donc tout le métier, disons, était plus concentré dans les salles de spectacle. Et c'est vrai que
là, vous avez été révélation.
Voilà,
de
j'ai fait un tabac, comme on dit. Voilà, mais c'était aussi, il faut dire que c'était plus ou moins mes premières chansons que je signais moi-même.
Oui.
Les années précédentes, au Rabolio, tout ça, je chantais des chansons d'autres auteurs.
Ouais, oui.
Et puis là, je m'étais lancée vraiment dans l'écriture. Et puis voilà, ça a fait Gros tabac au printemps de Bourges.
Au fond, les auteurs, compositeurs, interprètes, femmes, c'était assez récent finalement. C'était la génération juste avant, vos aînés, les Anne Sylvestre,
Hélène Martin.
Hélène Martin, c'était un peu nouveau au fond dans le métier.
Oui, c'est juste. Là, avant, ouais. les chanteuses avaient des auteurs.
Oui, c'est ça.
Enfin, il y a évidemment des exceptions dans ce qu'on dit, mais... quand même, là, effectivement, les auteurs-compositeurs femmes ont fleuri plutôt cette époque.
Donc vous avez partagé votre métier entre vos créations, certaines chansons du répertoire que vous avez reprises, et puis aussi les chansons de poètes que vous aimez, que vous avez toujours aussi enregistrées, au moins pour une part.
En général, il y a toujours un poème mis en musique dans mes disques. Ça doit venir du fait qu'avant de me mettre à écrire, en général, j'essaye de me mettre dans un état poétique, on va dire. C'est-à-dire...
Comment est-ce qu'on se met dans un état poétique,
Michel Bernard ? C'est le grand mystère. Ben, en général, je m'enferme. J'ai chez moi beaucoup de bouquins de poésie. Et je glane comme ça. Je lis des trucs en essayant de m'imprégner de tout ça. Et après, bon, ça... oui, quelque part, ça me sert de déclencheur pour écrire. Et puis, de temps en temps, comme ça, justement, je tombe sur un poème. Je me dis, oh, ça, c'est trop beau. Et ça a une forme suffisamment... classique, on va dire, pour qu'il soit mis en musique. Et là, je l'ai mis en musique. C'est un grand plaisir pour moi aussi.
Et l'écriture de vos propres chansons et la composition, comment ça se passe ? Alors, vous écrivez d'abord le texte, après vous sortez votre accordéon, vous cherchez une mélodie.
Je commence toujours par le texte, c'est-à-dire le premier déclencheur, le déclic, ce sont quelques mots. J'écris une strophe, un refrain et tout, mais je commence à tricoter la musique tout de suite. Je ne termine pas le texte, enfin c'est rare, mais...
Sans avoir trouvé la façon
sans avoir trouvé
dont
vraiment l'ambiance musicale, la rythmique des mots, et tout ça. Donc ça se passe comme ça. Par contre, je ne travaille pas à l'accordéon, qui est un instrument trop fatigant. Trop fatigant pour annonner, si j'ose dire. Je suis au clavier, au piano. Et je cherche au piano, je travaille au piano.
Ah oui, donc il vous sert toujours le piano, finalement.
Oui, bien sûr.
Alors bon, voilà, les albums se sont enchaînés ensuite avec effectivement vos propres chansons. Certaines ont connu un assez grand succès. On peut parler de Nomade, par exemple,
oui.
Ou encore Maria Susanna. On va peut-être l'écouter maintenant, Maria Susanna.
Avec plaisir.
Elle est venue comment, celle-ci ?
C'est une chanson qui m'est venue, en général, quand je m'enferme là, pour écrire, j'essaye de faire ressurgir les choses qui m'ont touchée dans ma vie, ça peut être la veille ou ça peut être des années avant.
Oui.
Et je cherche à les raconter comme je raconterais ça à un ami. Quoi.
Mais Nomade et Maria Susanna, c'est un peu le même thème d'ailleurs.
Nomade, disons que c'est une chanson plus généraliste. Enfin, voilà.
Enfin, c'est toujours l'exil.
Oui, tout à fait, le voyage. Je trimballe ça, allez savoir pourquoi. Voilà. Et Maria Susanna, c'est évidemment un vrai souvenir d'enfance.
Ouais.
Et
qui résonne avec l'actualité en plus.
En plus, mais ça je ne le savais pas quand je l'ai écrite. Pour moi c'est un souvenir fondateur, je me dis que c'est la rencontre de cette petite fille qui a fait que j'ai choisi de faire ce métier qui m'emmène sur la route. Quoi.
Elle a débarqué dans la classe, un vrai courant d'air. Drôle de dégaine et drôle de race, un matin d'hiver. Au beau milieu de la dictée, sur le ciel et la voie lactée, elle s'est assise tout près de moi, derrière le petit bureau de bois. La maîtresse a dit, elle s'appelle Maria Susanna. Elle sera là jusqu'à Noël, puis elle s'en ira. Alors ça pouvait arriver, au beau milieu de la dictée, une môme fagotée comme l'orage, fille du vent et du voyage. Oh, Maria Susanna, où es-tu ? Dans quelle nuit t'es-tu perdue ? Reste-t-il pour croquer ta vie manouche ? Quelques dents dans ta bouche, de Varsovie à Saragosse, roules-tu toujours ta bosse ? Si belle encore, mais comme tes semblables, toujours indésirable. J'ai attendu à la sortie pour accompagner cette môme qui m'avait pas souri, même pas parlé. Elle a mis sa main dans la mienne, j'ai suivi la petite bohémienne le long d'un boulevard tout gris, aux pauvres arbres rabougris. Trois caravanes sous la neige autour d'un grand feu, comme un immobile manège et des hommes entre eux qui parle une langue inconnue, étonnée que je sois venue dans la gadoue chercher du miel au pays des Romanichel. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie, manouche? Quelques dents dans ta bouche, ah, de Varsovie à Saragosse, roules-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme t'es semblable, toujours indésirable. Ses petits frères l'attendaient devant la roulotte, et tous ensemble ils sont entrés en fermant la porte. Elle a fait adieu de la main et j'ai rebroussé mon chemin jusqu'à ma maison de ciment où devait s'inquiéter ma maman. En me retournant, j'ai vu encore derrière le rideau ses yeux noirs qui brillaient si fort, qui tenaient si chaud. À l'école, on n'a pas revu l'enfant né en terre inconnue. L'orage n'a plus éclaté au beau milieu de la dictée. Maria Susanna, où es-tu? Est-ce de t'avoir aperçue à belle dent croquer ta vie, manouche, que j'ai eu dans la bouche, ah, ce désir si fort de partir et chanter pour ne pas trahir l'enfant qui va sa vie coûte que coûte sur l'infini des routes.
Maria Susanna, c'était Michel Bernard en 1999, une très belle chanson. Alors l'accordéon Merci. Est à l'honneur là. Hein.
Ah oui, oui, mais avec un vrai accordéoniste. Parce que
ah, c'est pas vous.
Moi j'ai pas la prétention de jouer aussi bien de l'accordéon là. En l'occurrence, c'était l'accordéoniste Jean-François Baez.
Ouais.
Et l'arrangeur, c'était Jean-Luc Michel, qui est le deuxième arrangeur avec qui je travaille.
Depuis très longtemps,
ouais, depuis très longtemps.
Très présent au fil de vos disques. Oui. Vous avez observé aussi, j'imagine, depuis pas mal d'années, justement, le regain de faveur de l'accordéon. Notamment chez les compositeurs contemporains. Enfin, il y a beaucoup d'aventures dans le monde de l'accordéon aujourd'hui.
Oui,
vous avez été précurseur dans le genre.
Bah, je ne sais pas si j'étais... Mais c'est vrai que j'ai toujours entendu oh, l'accordéon si mal aimé, etc. Et puis finalement, plein de choses se passent avec l'accordéon et dans tous les domaines, de la musique contemporaine jusqu'au jazz, musique classique même, parce qu'il y a plein de transcriptions aussi pour l'accordéon. Donc... Puis maintenant, il y a des classes de
oui dans les conservatoires,
dans les écoles,
oui, bien sûr,
et tout ça.
Oui.
Donc c'est, il a acquis un autre statut quand même.
Oui.
Mais le petit côté canaille, instrument de la rue, je crois que c'est important que
qu'il reste,
bien sûr. Que voilà, que ça existe encore. C'est ce qui peut encore jouer dans un coin de rue. Je trouve que c'est important aussi. Et ce qui peut être encore chanté dans un coin de rue, c'est important.
Alors, au-delà du tour de chant, Michel Bernard, vous avez aimé aussi composer des spectacles, comme je disais au début. Il y en a un, par exemple, qui nous tient d'ailleurs particulièrement à cœur sur France Musique, puisque ça s'appelait « Des nuits noires de monde », et c'est un titre qu'a repris notre ami Laurent Valéo pour une de ses émissions. Ça, c'était en 1991,
oui.
Et puis ça a été repris par la suite
voilà, on a
au Café
fait
de la
deux
Danse.
Versions. Il y avait une première version de 91 qui a bien tourné, et puis une deuxième version plus récente... 2011 peut-être
2010, j'ai vu.
2010,
oui.
Voilà.
Avec le soutien amical d'Anne Sylvestre, cette reprise, non?
Mais vous savez, Anne Sylvestre est mon soutien perpétuel.
Soutien perpétuel.
Donc, mais oui, tout à fait. Et là, cette deuxième version des Nuits Noires de Monde, je l'ai faite avec les chanteuses du groupe Évasion.
Voilà.
Que vous connaissez peut-être, qui sont aussi de ma région et qui chantent fort bien et qu'on entend dans les chœurs de mon CD actuel, là, du CD de toute manière.
Voilà, mais c'est pour ça que je dis, là, il y a une élaboration musicale qui va au-delà de la simple chanson à texte.
Voilà,
hein,
tout ça fait. J'ai aussi découvert, en fait, le chant polyphonique. C'est une chose qui me touche, qui me plaît beaucoup. Le fait aussi que des gens chantent ensemble,
ouais,
et créent quelque chose de beau ensemble. Et donc, souvent, maintenant, régulièrement, dans les spectacles,
vous faites appel comme ça à ces voix
voilà,
mêlées. Et
fait.
Alors, ça a été le cas aussi d'un autre spectacle en 2004 autour de Louise Michel.
Oui.
Cantate pour Louise Michel. Alors là, c'est carrément cantate. Là,
attention,
on
attention, attention on change un petit peu de... Hein, voilà.
Oui.
Et oui, c'est une commande en fait qui m'a été faite par Résonance Contemporaine, Alain Goudard, qui se trouve à Bourg-en-Bresse, qui travaille donc en musique contemporaine et qui travaille aussi avec un groupe de musiciens handicapés Manteau, un groupe de percussionnistes qui s'appelle les Percussions de Tréfort. Et il m'a passé commande d'une pièce polyphonique pour ce groupe de femmes. Je me suis dit, mais bah, qu'est-ce que j'avais envie de leur faire raconter à ces femmes, quoi, qu'est-ce qui peut... Et j'ai repensé à ce personnage de Louise Michel, qui est un personnage qui me fascine, parce que c'est un personnage très, très romanesque et qui a traversé son époque en vraiment... en s'intéressant à tout, la politique, la
Oui, ça va au-delà d'ailleurs de la seule politique.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Elle se rêvait poète d'ailleurs. Elle n'a pas écrit des poèmes extraordinaires, mais c'est un petit peu comme Victor Hugo. Ces gens-là donc, qui étaient ancrés vraiment dans le réel, dans la vie sociale de leur temps, qui voulaient changer la vie, quoi. Et puis aussi qui étaient fous de poésie. Elle était aussi pédagogue, puisqu'elle était institutrice. Elle a instauré des méthodes dites actives dans son école. À l'époque, c'était complètement fou, quoi. Elle était féministe aussi, quelque part avant l'heure. Donc, voilà, j'ai eu envie de lui rendre hommage, parce que je la trouve magnifique.
Cet extrait qu'on va entendre avec mon cousin Jules.
J'ai écrit le texte à partir des mémoires de Louise Michel, où elle parle de son enfance. Elle a eu une enfance à la fois très sauvage dans la nature, et puis aussi, comme elle avait un grand-père, que peut-être son père d'ailleurs, on ne sait pas trop, qui l'avait beaucoup initiée aux lettres, à la littérature, elle avait ce mélange de sauvagerie, de nature, et puis c'est déjà cet amour de la poésie et de l'écriture.
Ah oui, c'est elle, la petite fille qui grimpait aux arbres, en fait, j'ai confondu tout à l'heure.
Exactement, vous avez dû me confondre avec Louise Michel, je vous en remercie, mais c'est pas... Et voilà, elle raconte ses souvenirs avec son cousin.
Avec mon cousin Jules, on grimpait dans les arbres pour se jeter des pommes et réciter des vers. Des poèmes barbares aux fabuleux héros, des sorcières, des bagnards et puis Victor Hugo.
En fond, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. En fond, voici les bœufs qui passent.
Avec mon cousin Jules, on était des sauvages, de chevaux emballés, cafant dans les orages. Offrant nos poésies à un public de chats, de poulets, de perdrix et la jument Brusca.
Le vent qui court à travers la montagne me rendra fou.
Avec mon cousin Jules, on faisait des fagots, un jour pour le bûcher, un jour pour l'échafaud.
Un jour pour le bûcher, un jour pour l'échafaud.
On montait gravement l'escalier fatidique pour mourir en criant « Vive la République !» Sentant pour nous deux un destin héroïque, plein de larmes et de feu et d'étranges musiques. Et nos têtes roulaient sur un public de chats, de perdrix, de poulets et la jument Brusca.
Le vent qui court à travers la montagne me rendra fou.
Voilà, un extrait de cet oiseau noir du chant fauve, c'était le nom de ce spectacle, cantate pour Louise Michel, Michel Bernard, vous entendez là avec justement cet ensemble vocal. Alors vous composez vous-même certaines parties, y compris pour les harmonisations.
Oui, j'harmonise à mes heures. J'ai un petit problème, c'est que j'ai de la peine à écrire la musique vraiment de manière parfaite, quoi. Ouais. Donc ça m'handicape un peu, mais Par contre, l'aspect trouver des harmonisations, enfin écrire pour des voix, ça me passionne.
Ça a été créé donc en 2001 d'abord, hein, au théâtre de la Renaissance à Oullins. L'enregistrement voilà. est de 2004.
Oui.
Et on peut toujours le trouver en CD.
On peut toujours le trouver.
CD.
Ça a été réédité. On le trouve en CD. Oui, tout à fait.
Je note, hein, j'observe. Ça a été créé donc dans le département du Rhône.
Oui.
Il faut quand même signaler une chose, Michel Bernard, parce que finalement, c'est une originalité dans le monde de. Je ne pense pas que vous aimiez beaucoup le showbiz, mais même le monde du spectacle, simplement. Vous n'êtes jamais monté à Paris.
Non, je montre que c'est vrai. Je n'ai jamais choisi de
vous
m'installer à Paris.
Vous avez monté du genre, on quitte sa province, on s'installe et on va faire le métier à la capitale.
J'ai un petit... Oui, c'est
non,
vrai.
Vous êtes resté.
Je suis restée dans ma région, qui est... J'espère que vous voyagez aussi de temps en temps.
Bien sûr, mais j'adore Lyon, voilà. Par exemple.
Parce que la région Rhône-Alpes, c'est une région extrêmement riche au niveau culturel. Quoi. Il y a beaucoup de choses au niveau théâtral, au niveau musical. Et voilà, j'ai pas éprouvé...
Ça vous a pas empêché de chanter partout en France
exactement,
et en Europe, d'ailleurs.
En partant de chez moi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais puis comment dire, quand j'ai démarré dans ce métier, j'étais aussi...
Ah, toujours, la révolte,
voilà,
à vif.
C'est-à-dire que tout ce qui relevait du show business, c'était le démon intégral. Donc, je suis restée, c'est vrai, en retrait. Après, je l'ai peut-être payé, d'une certaine manière.
Vous êtes apaisé maintenant par rapport à
tout à fait.
À ces révoltes de votre adolescence.
Oui, mais le monde ne va pas mieux pour autant, mais en tout cas, voilà, je le regarde un peu différemment.
Le monde ne va pas mieux et peut-être qu'on croit moins encore qu'à l'époque que les choses vont s'arranger. Il y a un certain pessimisme dans l'air. Vous parliez de changer la vie tout à l'heure.
Oui, c'est évident que nous vivons une forme là de désespérance généralisée. Quoi.
Ouais, vous le ressentez ça, oui.
Oui, bien sûr. Et, de toute manière, quand on chante forcément son époque, on chante son air du temps et sa manière de le sentir. Hein.
C'est pour ça que vous essayez au moins d'en chanter les enfants. Parce que comme votre amie Anne Sylvestre, vous aimez bien enregistrer pour les enfants.
Oui, j'ai même tourné un spectacle pendant quelques saisons là, qui s'appelait « Sans dessus dessous ». Qu'on a joué aussi devant des scolaires, devant des enfants. Ça, c'est une découverte de ces dernières années. Et
ça vous faisait un peu peur au début, vous aviez peur d'être catalogué
Bien sûr, après on dit « c'est une chanteuse pour enfants ». Voilà, c'est un peu embêtant quelquefois. Mais par contre, j'ai fait une découverte magnifique quand même, parce que prenant de l'âge, je me pose... quelques questions de transmission. Et l'idée que mes chansons soient reprises, soient chantées par des enfants, tout d'un coup, j'ai réalisé à quel point c'était une chose merveilleuse aussi.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Parce que moi, j'ai gardé un souvenir de ma cour d'école quand j'étais petite, où on nous avait fait chanter « Mes jeunes années » de Charles Trenet.
Ah oui ?
Et je me rappelle de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, du chant, de cette chanson. Et si cette émotion, elle est, voilà, je peux l'avoir provoquée auprès d'enfants, avec Nomade ou Maria Susanna, c'est un cadeau de la vie, quoi.
Voilà. Et aussi, donc, certains disques de chansons plus spécifiquement pour les enfants. Moi, j'en ai choisi une qui m'a beaucoup plu, mais j'espère que vous ne regretterez pas mon choix. C'est l'intitulé « J'aime après l'orage ».
Ah, ben, plaisir.
J'aime après l'orage l'odeur de la terre. Et celle du bois qui craque en brûlant, odeur des sapins un matin d'hiver, et des champignons cueillis dans un champ, la peau des bananes, le crottin des ânes, la fleur du lilas. Mon nez, il est ni beau, mais par ces deux petits couloirs, il y a le monde entier qui vient me voir. En m'apportant des cadeaux, des tas de parfums pour mon cerveau, l'odeur des grands draps que l'on vient d'étendre, la tarte aux pralines qui sort du four, et le petit chien à la peau si tendre, l'odeur des jacinthes au fond de la cour, et l'eau de Cologne de ma tante Yvonne, et le chocolat, j'aime tout cela.
Le crottin des ânes,
j'aime tout cela.
Je la trouve très émouvante et lumineuse en même temps, cette chanson, Michel Bernard.
Bah, le plaisir, voilà, ramener un petit peu de la notion de plaisir un peu auprès des enfants qui sont eux aussi soumis aux vicissitudes de l'époque.
Et alors, les arrangements très réussis de Jean-Luc Michel,
ce disque. C'est lui qui a signé ce disque pour les enfants. Et le chœur d'enfants, c'est le chœur des enfants de l'IMAL, une école de musique à Lyon.
Voilà. Et c'est paru comme beaucoup de vos disques chez EPM, hein, excellente maison de la chanson française.
Ben, je salue ici la fidélité d'EPM vis-à-vis de mon travail, c'est vrai.
Voilà, parce qu'il faut dire que EPM a également publié il n'y a pas très longtemps une anthologie en 3 CD de vos chansons, Michel Bernard. Je crois que c'est ce qu'on peut recommander d'ailleurs de mieux, mis à part votre nouvel album, aux auditeurs pour découvrir ou redécouvrir un peu
l'ensemble
de vos chansons.
Voilà, tout à fait, ça balaye un peu toute ma carrière, enfin à partir du premier disque jusqu'au dernier.
Ouais. Vous parliez, l'évolution du monde, elle n'est pas toujours très réjouissante. Changer la vie, ça devient difficile. L'évolution du monde de la chanson, vous l'avez vécu comment aussi comme témoin de ce qui se passe, du passage des générations, de l'évolution des styles
Je pense que il en est de l'évolution de la chanson comme de l'évolution du monde, on va dire. Hein je pense, c'est-à-dire que maintenant, on est un peu dans des cercles, on ne passe pas de l'un à l'autre. Si facilement.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant, parce que quand on a préparé l'émission, vous m'avez cité des quantités de choses, d'artistes, Chloé Lacan, Entre deux caisses, Fred Bobin, Lily Lucas, etc.
Je voulais saluer cette génération-là de jeunes chanteurs qui sert la chanson dite à texte, on n'aime pas dire ça, mais
ça vous savez,
ces chansons,
chanson à texte égale chanson ennuyeuse,
alors que ce sont des gens justement qui soignent leur texte et qui font des choses très belles, qui ne sont pas ennuyeuses du tout, qui signent aussi de très belles musiques et qui sont... Je dirais, on fait un petit peu partie tous, là, quelque part, excusez-moi, du petit peuple de la chanson, quelque part. C'est-à-dire c'est de ces gens qui vivent de ça, qui courent les routes, qui font des très belles choses, mais qui très rarement accèdent à des médias plus grands. Et c'est fort dommage.
En tout cas, vous m'avez enchanté avec un de ces... Alors non, ce n'est pas un groupe, parce que c'est plutôt un chanteur, mais ça s'appelle Presque Oui.
Presque Oui, parce qu'au départ, c'était un duo. Voilà, il a plusieurs formes dans son travail. Il fait aussi des choses en solo, mais en général avec des musiciens. Il s'appelle Thibaut de Fevert. Bon, c'est un guitariste hors pair. Et il écrit aussi des chansons très, très délicates et très, très riches.
Tant qu'on se sera pas enlacé, tant qu'on se sera pas embrassé, là, là et là, on saura pas. Tant qu'on n'aura pas fait l'amour, parler jusqu'au petit jour de toi, de moi, on ne saura pas. Et tant qu'on n'aura pas vécu sous le même toit, les petits matins, au quotidien, on ne saura pas. Tant qu'on n'aura pas pris la bouche pour 3 fois rien de poil dans la douche, on ne saura pas. Pour toi et moi, on saura tout à la fin si on était bien fait là. Pas avouer qu'on s'aime aussi pour pas rester tout seul dans le froid, on saura pas. Tant qu'on n'aura pas un enfant ou deux qui t'appelleront maman et moi papa, on saura pas. Et tant qu'on n'aura pas goûté le cœur béat à d'autres lèvres en grand secret, on saura pas. Tant qu'on se sera pas tenu la main en voyant tomber les copains, on saura pas. Pour toi et moi, on saura tout à la fin si on était bien fait l'un pour l'autre. Et même quand je serai en chaise roulante, que tu me retiendras dans les descentes, on saura pas. Quand quand tu m'auras fermé les yeux, à moins que ce soit moi qui te survive un tout petit peu, 2 ou 3 mois. La 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 la. Là on saura, là on saura, on saura tout à la fin si on était bien fait là. On saura tout à la fin si on était bien fait l'un pour l'autre. Pour l'autre. Pour l'autre.
Thibaut de Fevert, alias Presque Oui, un choix de mon invité Michel Bernard, voilà, qui s'intéresse amicalement à ses jeunes confrères du monde de la chanson. Quant à vous, Michel Bernard, alors votre nouvel album sort, ça s'appelle Toute Manière. On a écouté déjà une très belle chanson au début, Je clique. Des beaux arrangements, un mélange de votre voix et d'autres voix comme vous aimez faire depuis des années, ces couleurs qui caractérisent vos chansons. Et puis après la sortie de l'album, donc toute une tournée avec Paris, le Café de la Danse les 17 et 18 octobre et un certain nombre de villes comme Cerisay, Grand Couronne, Cluny, Porte-les-Valence, Autran, enfin j'en passe et des meilleurs. Il y a un site où tous les auditeurs peuvent retrouver
C'est www.michelbernard.net.
Michelbernard.net, ce sera un récital que vous allez donner de chansons, nouvel album.
Alors, le Café de la Danse, c'est vraiment la sortie du disque. Donc là, il y aura tous les musiciens du disque. C'est un peu la fête. J'aimerais pouvoir les offrir une tournée.
À Paris, 17 et 18 octobre.
Et ensuite, les spectacles sont en trio. Et puis, je voulais parler aussi d'un petit spectacle, parce qu'il est modeste dans sa forme. C'est un spectacle en duo avec une comédienne qui s'appelle Monique Brun.
À Autran, les 22 et 23 septembre.
Absolument. Et là, c'est un montage de chansons et de textes que l'on donne. On se renvoie la balle l'une et l'autre. Et c'est un moment poétique sympathique, je trouve.
Et quand la tournée sera finie, Michel Bernard, vous retournerez à Saint-Julien-Molin-Molette.
Bien sûr.
J'adore ce nom.
C'est vrai que c'est beau. C'est...
Molin-Molette. Saint-Julien-Molin-Molette. C'est là où vous habitez depuis longtemps.
Oui. Voilà. C'est une maison, une ancienne usine, en fait, voilà, qu'on a investie il y a pas mal d'années avec des amis. Et puis, au fil du temps, on y a instauré avec une association dont je m'occupe avec d'autres personnes, un groupe d'amis, en fait, qui sont soit enseignants, soit eux-mêmes praticiens de la musique et qui avaient envie de développer des choses autour de la chanson à Saint-Julien. Donc, je crois que c'est depuis 92, on organise des activités, des stages de formation à la chanson et des festivals à Saint-Julien-Molin-Molette.
Alors, à retrouver aussi ça sur le site de Michel Bernard. Mmh. On va se quitter avec une de vos grandes amies, on l'a dit tout à l'heure, c'est Anne Sylvestre. Je disais au début de l'émission, vous avez parfois, dans votre carrière, dans cette époque difficile, eu des petits moments de découragement, et vous évoquez dans cette chanson, Madame Anne, cette énergie de votre grande sœur, si je veux dire, Anne Sylvestre, avec qui vous avez enregistré, justement.
Voilà, tout à fait. C'est une saltimbanque extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle, quoi qu'il arrive, elle fait la route. Voilà. Et j'admire beaucoup ça. Je suis de sa famille, mais je dois avouer que je trouve plus qu'elle que c'est fatigant aussi, ce métier. Quoi, que c'est. Ouais. Mais je sais que c'est une petite lumière, comme ça, Anne, de ce point de vue-là.
Alors, c'est Madame Anne, vous êtes en duo avec Anne Sylvestre, c'est dans votre nouveau disque, Toute Manière. Michel Bernard, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Des fois j'en ai marre de courir les routes, de balader ma vie dans des camions bien moins pourris qu'avant, mais quand même. Des fois j'ai la flemme, des fois j'y crois plus, des fois je doute de ce foutu métier où on se couche à l'heure du laitier, sauf qu'il n'y en a plus guère. Des fois je désespère, alors je pense à Madame Anne, au volant de sa bagnole, qui trace, qui caracole contre marées et vents. Elle me dit:
en avant, mange tes kilomètres, au bout tu vas renaître. Dans un bout de lumière, tu feras 3 petits tours pour que la vie s'éclaire de quelques mots d'amour. Tu sais, ça vaut la peine. Au bout du chemin, il y a la Seine.
fois j'en peux plus, j'en ai ma claque de traîner mon bignon qui est lourd comme un sac de cailloux, mais je veux pas qu'on m'aide. Des fois je trouve ça raide. Des fois je veux sortir de ce cloaque, de ce monde insensé où l'on fait rien qu'à se blesser aux ronces aux épines. Des fois j'ai le spleen. Alors je pense à Madame Anne qui met au bout de son nom une fleur et un frisson et nous fait si léger qu'on ne veut plus bouger. Elle me dit
allez fonce, les épines et les ronces, c'est pour y accrocher des couplets, des refrains, histoire de repousser la mort un peu plus loin. Tu sais, ça vaut la peine, tant qu'on est là, de se dire qu'on s'aime.
Alors merci, Madame Anne, d'avoir su allumer deux fagots de sorcière pendant 50 années dans un rond de lumière. Tu sais, ça vaut la peine. Bye, mélanco, quand tu entres en scène.
Michel Bernard en duo avec Anne Sylvestre dans Madame Anne, une chanson extraite du nouveau disque de Michel Bernard. Ça s'appelle Toute Manière et ça sortira le 16 septembre, donc très tout bientôt, chez EPM. Et puis vous pourrez retrouver Michel Bernard au Café de la Danse à Paris les 17 et 18 octobre. Et pour une tournée, le plus simple, c'est d'aller voir sur son site michelbernard en un seul mot .net. Vous retrouverez toutes les informations.
Thank you.
Sabrosa, un classique latino enregistré en 1958 par Russ Garcia et son orchestre. Merci d'ailleurs au camarade Serge Laïc de m'avoir fait découvrir ce morceau qui figure dans son disque coffret La magie des grands orchestres internationaux volume 2 que je ne peux que vous recommander. C'est paru un peu avant l'été chez Marianne Melody. Et puis, eh bien, quelques actualités d'opérette et d'opéra comique. Je voudrais saluer l'opéra de Toulon qui a l'excellente idée de reprendre Le Chalet d'Adolphe Adam, œuvre étonnamment oubliée parce que ça a été un des plus grands succès de l'opéra comique, plus de 1400 représentations. Et puis, c'est tombé complètement dans l'oubli depuis le milieu du XXe siècle. Alors, bravo, oui, je le dis à l'opéra de Toulon qui donnera le 16 septembre Le Chalet. Malheureusement, ce ne sera pas une version scénique, ce sera une version concert, mais c'est déjà pas mal. Et ça va nous permettre de retrouver donc ce petit chef-d'œuvre léger de 1834 sur un livret d'Eugène Scribe que le public adorait pour son art mélodieux, pour son côté pittoresque parce que ça se passe en Suisse et aussi pour ce ton un peu patriotique, ce goût de la patrie et aussi de la liberté qui est très présent après les révolutions du 19e siècle comme dans cette ère qu'on va entendre maintenant dans ce modeste et simple asile. Liberté chérie, un air chéri du public de 1834, extrait du Chalet d'Adolphe Adam. Là, c'est un des rares enregistrements, celui que nous conservons ici à l'INA, Denise Boursin dans le rôle de Betty, qui est donc cette jeune Suissesse dans son chalet en pleine montagne avec son amoureux éperdu et un peu naïf et surtout éconduit, Daniel, et puis avec un beau militaire qui arrive, qui s'appelle Max, et qui va chanter l'air qui était peut-être le plus célèbre dans ce chalet d'Adolphe Adam, Les Vallons de l'Helvétie, un air qui a été conservé dans les urnes de l'Opéra de Paris en 1907, quand on a voulu garder les plus grands chefs-d'œuvre de la musique pour un témoignage pour les siècles futurs. Vous savez, on a enfermé des enregistrements dans des urnes. Et bien, parmi les enregistrements de la première urne figure justement un extrait du chalet d'Adolphe Adam, c'est vous dire la célébrité de cette œuvre, enregistrée en 1905 par Hector Dufresne. Comme d'un présent pour ma patrie. Hector Dufresne en 1905 qui chantait Les Vallons de l'Helvétie, extrait du Chalet d'Adolphe Adam, une œuvre que je vous invite donc à redécouvrir. Si vous êtes dans la région de Toulon, c'est Hugo Rabec qui chantera le rôle de Max, l'air qu'on vient d'entendre, avec deux jeunes et excellents artistes également qui aiment l'opéra comique, Jody DeVos dans le rôle de Bethly, Sébastien Droit dans le rôle de Daniel, l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Toulon sous la direction de Guillaume Tournière. C'est le 16 septembre à l'Opéra de Toulon. Et toujours l'excellent Adolphe Adam avec ici un extrait de Gisèle sous la direction d'Eugène Normandie. Et oui, au temps où on jouait sa musique dans tous les grands orchestres du monde, dommage. C'est bien fini, voilà une idée pour nos futurs programmateurs.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et puis un petit changement en ce début de saison. Alors il n'y aura plus une chronique chaque semaine, mais deux feuilletons mensuels, un sur la chanson française avec Martin Péné, un autre sur les orchestres de musique légère avec Serge Laïc, qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine. Et puis une semaine sur deux, ce seront des archives de voix. Je vous invite à remonter avec moi dans le temps, comme si nous manipulions le bouton d'un vieux poste à galène.
Bruno sont peut-être un peu moins chers, parce que Philippe Puit, on l'a envoyé à toi.
Ce poste à galène-là, c'est TSF et appareil en tout genre, un enregistrement du fantaisiste Beethoven. Et je vous propose donc de tourner notre bouton et de l'arrêter en l'année 1947, au mois de mai. Nous allons partir à Paris, dans le quartier du Faubourg Saint-Martin, à la rencontre de Vincent Scotto, qui va nous raconter la véritable histoire de son succès, la petite Tonkinoise.
Une toute petite rue entre le boulevard de Strasbourg et le Faubourg Saint-Martin. Vincent Scotto a son bureau là depuis 40 ans. Il n'a jamais voulu en changer.
C'est là que j'ai commencé, que j'ai eu mes premiers succès. Alors, tu comprends, c'est un fétiche ce bureau, ce petit. Et sans bouger de mon fauteuil, j'ai tous mes dossiers à portée de la main, le piano et ma guitare. Souvent, la nuit, en dormant, Il me vient une idée, un motif de chanson. Alors à tâtons, je la prends, cette vieille guitare, et je compose. Ma première chanson éditée fut « C'est la faute au printemps » qui fut créée à Marseille par Darbon Nodar, sans aucun succès.
Non.
Et pourtant, je la trouvais bonne.
Mais ton premier succès, le vrai.
La petite tonkinoise. Son histoire est rigolote. Au cabanon, je chantais une chanson qui avait beaucoup de succès.
Je ne suis pas un grand acteur, je suis navigateur. Je connais bien l'Amérique, l'Asie autant que l'Afrique. J'en connais bien d'autres encore. Je suis navigateur. Mais de ces pays joyeux, c'est Marseille que j'aime le mieux.
Un jour, Paulin entendit cette chanson. La musique lui plut beaucoup. Mais il ne pouvait, en tourlourou, chanter les paroles « Navi, Navi, Navigator ». Il apporta la chanson à Christine, qui me l'acheta 25 francs, et en fit la petite tonkinoise, qui lui rapporta des centaines de mille francs.
Voilà, ça c'était donc le premier document sur notre vieux poste, Vincent Scotto, qui nous racontait la véritable histoire de cette petite tonkinoise devenue très célèbre grâce à l'enregistrement de Joséphine Baker. Mais ceux qui connaissent cet enregistrement savent que il est incomplet. La chanson, elle ne comporte qu'un couplet et un refrain dans cette version qui est à peu près la seule qu'on connaisse en général. Alors j'ai trouvé un autre document. Là, on va tourner encore jusqu'à l'année 1948 et retrouver Vincent Scotto en compagnie de la chanteuse Esther Lequin, qui va nous donner, pour une fois, la version complète de la petite tonkinoise.
Puisque nous avons la joie d'avoir ce soir le célèbre compositeur Vincent Scotto, qui fut le premier compositeur de mes débuts, c'est-à-dire que c'était à Parisiana, il y a... Je vais vous dire la création que j'ai faite à Parisiana de Vincent Scotto, la petite tonkinoise. J'ai 20 ans ce soir. C'est vrai? Pour me distraire, sans manière, autant qu'un, je suis partie. Oh, quel beau pays, mesdames! C'est le paradis des femmes, on les aime à l'extrême. Je suis devenue la chérie d'un petit homme du pays qui s'appelle Mélancolie. Celui pour qui je palpite, c'est un analyte. Il est d'une humeur charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est lui que j'aime le mieux. Le soir, on cause dans tant de choses. Avant de nous coucher tous deux, j'apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. Celui pour qui je palpite, c'est un analyte. Il est d'une humeur charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est lui que j'aime le mieux. Mais tout casse et tout passe. En France, il fait l'urentrée. Il avait le cœur plein de tristesse de laisser passer ses maîtresses. L'homme en peine, sa petite reine, se laissait accompagner. Mais avant de se séparer, il lui dit dans un baiser: ne pleure pas si je te quitte, petite anamite, tu m'as donné ta jeunesse, ton amour et tes caresses. Je t'appelais ma petite bourgeoise. Mets ton kiki, mets ton kiki, mets ton kinoise dans mon cœur. Je garderai toujours le souvenir de nos amours. Alors, mon cher ami, je suis ravie de vous avoir ce soir. J'ai 20 ans ce soir. Mais oui.
Écoutez, je suis heureux de remercier et de féliciter Esther Lequin, qui a été l'interprète de mes premières chansons. On l'appelait à l'époque la reine des diseuses. Elle est toujours la reine des diseuses. Elle sait émouvoir, elle donne un sens aux mots extraordinaire. Vraiment, il y a très peu de femmes qui savent dire intelligemment quelque chose, surtout ces petites chansonnettes, ces petites choses de rien du tout. Vous leur donnez un sens, vous leur donnez une allure formidable. Et c'est pour ça que je vous remercie de tout mon cœur.
Voilà, c'était notre petit voyage à la découverte des voix d'autrefois. Ici, Esther Lequin, en compagnie de Vincent Scotto, en octobre 1948, peu avant d'ailleurs la disparition du célèbre compositeur de chansons. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Benoît Latil, Jean-Paul Lafavergès, Sophie Saliomari, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, on a rendez-vous avec Jacques Bourdon, l'arrière-petit-fils de Jacques Offenbach, qui sera ici en compagnie d'Yves Coudray et Edwige Bourdie à l'occasion du lancement du spectacle Les Jeux de l'amour et d'Offenbach. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.